I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Dans quelques jours, Rennes va, comme tous les ans, accueillir les Transmusicales. On s'y habituerait presque, tant le rendez-vous est inscrit dans le paysage musical français. Pourtant, l'édition de cette année a une saveur particulière, puisque ce sera la 40e. Et mine de rien, c'est assez vertigineux, 40 années passées à inlassablement creuser les infrazones de la musique mondiale pour y trouver les projets les plus fous, les plus extrêmes, mais aussi les plus raccords avec notre époque. Car si on se penche sur l'historique du festival, on voit alors défiler tout un tas de noms désormais inscrits au patrimoine collectif des musiques amplifiées, que je viens à l'instant d'inventer. Étienne Dao, Ben Harper, Noir Désir, The Roots, Philippe Catherine, sans oublier évidemment Nirvana, souvent ces groupes cueillis juste avant qu'ils n'explosent aux yeux du grand public. Et pour fêter cet anniversaire en bonne et due forme, je vous propose donc, comme dirait l'autre, un voyage dans le temps, de remonter le fil de cette histoire. Weekend à Rennes, c'est notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Et notre exploration dans les archives des transmusicales débute en 1979, première édition de ce qui s'appelle officiellement les Rencontres transmusicales, un événement alors censé célébrer la vigueur de la scène rennaise, comme l'explique à l'époque Hervé Bordier, l'un des cofondateurs du festival.
On a recensé pour les Rencontres 22 groupes, donc ce qui représente près de 100 musiciens. Et bon, actuellement, on a choisi 12 groupes qui nous semblaient les plus intéressants pour ces premières soirées.
Et le grand ambassadeur à l'époque de cette scène en pleine ébullition, c'est ce qu'on entend là derrière, Marquis de Sade. Suivi de près par d'autres comme Lenny. Et surtout quelques années plus tard, par un jeune homme, également à l'affiche de la première édition sous le mystérieux pseudonyme de « Entre les deux fils de la Dynamo », qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui sous le nom d'Étienne Dao. Mais rapidement, même si le bassin rennais reste des plus foisonnants, les trans prennent de l'ampleur et commencent à brasser plus large pour s'ouvrir à toute la scène française dans un premier temps, avec toujours cette exigence de nouveauté. C'est ce que nous dit une autre cofondatrice du festival, Béatrice Massé, c'était en 1982.
Nous invitons à passer des orchestres de musique, des groupes de rock, qui sont généralement très peu connus parce qu'ils n'ont pas enregistré d'album, ni de 45 tours, et que les gens à Rennes n'auraient pas connu si nous ne les avons pas fait passer. Il y a des groupes de Paris, d'Avignon, de Rouen.
Les Dogs, Noir Désir, Gamine, Printemps Noir, avec un certain Christophe Nussek à la guitare, sans oublier la scène qu'on appelle alors alternative, avec Pigalle, les VRP et évidemment les incontournables Béruriennes. Tout au long des années 80, le festival passe un cran supplémentaire et ouvre grand ses portes aux groupes étrangers, poursuivant sur sa logique de défrichage à l'échelle mondiale désormais. La programmation au passage s'élargit d'année en année. D'ailleurs, je vous invite à aller fouiller dans la web app qu'a développé le festival pour ses 40 ans. Ça s'appelle la Transmusic Maps. On peut explorer les affiches édition par édition et ça affiche un peu le tournis. C'est comme ça que les trans ont bâti leur légende, aidés au passage par quelques petits coups de pouce du destin, comme en cette fin d'année 1991, lorsque le festival s'apprête à écrire une bonne grosse page de sa mythologie en accueillant un petit groupe américain qui, je pense, vous dira quelque chose.
Ça sera sûrement un des événements de ces transmusicales, je ne prends pas de risque en vous le disant, tout de suite les trois titres Nirvana. Et c'est parti.
Nirvana à Rennes, quelques semaines seulement après la sortie de Nevermind, le disque qui propulse le trio du statut de sympathique sensation pour amateurs de musiques énervées à celui de phénomène mondial. Et à leur côté, ce soir du samedi 7 décembre 1991, il y a un Français, Christophe Davy, alias Doudou, figure essentielle de la musique indé française, actuel patron du tourneur Radical Productions, fidèle de Nirvana, il a vécu cette soirée rennaise au plus près. Je vais donc passer un petit coup de fil pour qu'il nous raconte tout ça.
Quel souvenir vous gardez de ce concert de Nirvana en 91?
Comme pas mal de gens qui étaient là, comme un moment unique. Ça représentait l'arrivée d'une nouvelle scène qui explosait à la face du monde et qui était en train de changer les années 90 de la musique. Quoi.
Vous étiez à leur côté ce soir-là. Dans quel état d'esprit ils étaient? Qu'est-ce que vous en gardez comme image?
À la cool, tu vois, rien de spécial et tout, hein, comme un groupe de rock normal, si tu veux, qu'on fréquentait tous les jours et tout, à l'époque et tout, bon, avec la pression, évidemment, d'un groupe qui était en train d'exploser au niveau mondial et compagnie, mais bon, pas beaucoup de différence avec le groupe que j'avais vu 2 ans avant pour jouer à la MJC d'ici les Moulineaux. Hein.
Ils n'étaient pas encore devenus des superstars? Est-ce qu'ils se rendaient compte?
Si, c'était déjà. Début décembre aux États-Unis, ils avaient déjà vendu plus d'un million de disques de Nevermind et compagnie. C'était parti. Hein.
Et ils se rendaient compte du changement.
Faut jamais oublier qu'à l'époque, la tête d'affiche, c'était James. Hein.
Ouais.
Ce groupe anglais dont tout le monde ne se souvient plus et qui a disparu à juste titre. Mais à l'époque et tout, ils étaient dans la soirée, c'était pas la tête d'affiche. Et finalement, tout le monde est venu pour eux. Et quand James a joué après Nirvana, la salle s'est vidée aux 3/4. Les gens n'étaient pas venus pour la tête d'affiche. Les gens, c'était complet depuis bien longtemps. Et les 6000 personnes qui y avaient là, parce qu'à l'époque, aux Libertés, je crois qu'on en mettait 6000, tu vois, ils étaient là à 95% pour eux. Donc c'était quand même, tu vois, le groupe du moment, la nouvelle sensation... la nouvelle mode, tu vois, tout le monde était hyper excité et compagnie, et voilà, le concert, ça a été le feu et tout. Tu vois, ils ont commencé avec My Sharona, ils ont enchaîné tous les tubes et tout, après ils ont détruit le matos et ils se sont cassés, c'était parfait. Hein.
C'est marrant parce que ce moment, il est devenu vraiment mythologique dans l'histoire des trans, ce concert, à tel point qu'il y a pas mal de gens qui, un peu comme le fameux grand concert punk qu'il y avait eu à côté de Paris dans les années 70, il y a pas mal de gens qui disent y avoir été sans qu'on soit vraiment certain qu'ils y étaient. Il y a pas mal de gens qui ont revendiqué un peu ce moment, d'avoir participé à ce moment, alors que c'était un peu faux.
Ah bah là, moi, je sais pas, je peux pas te dire. Moi, j'y étais, je le sais, mais en tout cas, en ce moment, être là à ce moment-là, tu vois, quand il y a 5000 personnes et que c'est le groupe du moment à voir, c'est pas non plus un exploit. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai plus de gens qui disent qu'ils les ont vus en 89 ou 90 à l'MJC d'ici les Moulineaux, où je sais pertinemment qu'ils y étaient pas, hein, parce qu'on était 100. Hein.
Est-ce que tu as eu d'autres contacts avec eux après, ou c'était fini, ils étaient partis dans autre chose?
Non, moi, j'ai revu le groupe jusqu'à ce que Kurt Cobain il décède et tout, donc il se suicide et tout, et puis moi, je m'occupe toujours... de Foo Fighters en France. Donc moi depuis avec Dave Grohl et tout, on a continué de travailler ensemble et tout. Et puis de temps en temps et tout, à l'occasion, la dernière fois que j'ai revu Chris Novoselic, c'était justement avec les Foo Fighters à Austin, il y a 3 ans de ça. Voilà, c'est pas des contacts réguliers, mais c'est des gens que, Dave Grohl que je vois régulièrement avec Foo Fighters, et puis Chris Novoselic que je revois une fois de temps en temps pour des occasions spéciales et tout, donc plutôt rigolo.
Est-ce que, là je parle plus aux professionnels de la musique, est-ce que ce concert, il a participé au changement de stature des trans par rapport au public, en tout cas par rapport au public rock en France, le fait qu'on se dit que c'était un endroit où il se passait des choses et où justement il y avait des groupes qui potentiellement allaient exploser par la suite?
Moi, je l'ai toujours eu, l'historique, par rapport à les trans, parce que moi, je suis d'Angers, je suis toujours à Angers, et pour nous, les trans, et Rennes en général, tu vois, c'était une ville importante pour le rock, notamment dans les années 80, parce que c'était une des seules villes où il y avait l'Ubu, où il y avait déjà des clubs et des endroits pour faire de la musique et tout. Donc au-delà des trans, Rennes notamment à cette époque des années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'était tu vois la ville de l'Ouest où tu pouvais aller voir des choses quand t'étais justement de la grande région et tout. Donc oui, ça a été important, mais bon, je pense qu'il n'y a pas eu de ça. C'était aussi tu vois Rennes en soi, c'était un moment important. En tout cas, il y en a eu, tu vois, il y en a eu régulièrement, notamment après sur les années 90. Là, j'en ai pas comme ça en mémoire et tout, mais lui doit en avoir.
Et ça reste un festival incontournable quand on développe des artistes émergents. C'est un endroit où on a envie de faire voir ces groupes quand on les fait tourner.
Oui, ça reste un passage important comme d'autres festivals. Mais tu vois, sur les trans et tout, notamment sur des groupes qui démarrent vraiment, qui sont on va dire au début de leur carrière, au début de leur apprentissage et compagnie. Voilà, c'est justement un des festivals qui accueille ces groupes en priorité et qui n'accueille quasi que ces groupes-là, ce qui est assez rare. Souvent, les petits groupes dans les festivals d'été, ils servent à démarrer des petites scènes par-ci, par-là, et puis voilà, c'est pas le cœur du festival, alors que les trans, c'est le cœur du festival.
La légende des trans est lancée, les années 90 ne vont faire que la renforcer. Parmi les témoins privilégiés de cette folle époque où se mélangent nouvelle scène française, rocker indé du monde entier et musique électronique en pleine expansion, il y a de nombreux journalistes, dont Étienne Greib. Étienne, c'est une ancienne plume du journal Magic, canal historique. Actuellement, il écrit pour le site de défrichage pop Section 26. Je suis allé le voir chez lui, à Paris, pour évoquer une année bien particulière.
Alors, il y a l'année 92 qui est une année, je pense, assez charnière pour les trans. Pour trois raisons. Alors personnellement, moi, je travaillais pour un label qui s'appelait Rosebud à l'époque. J'ai fait un stage de quelques mois chez eux là-bas et leurs locaux étaient à côté de la Maison des Trans, ou dans la Maison des Trans. Et donc j'avais été témoin en fait de la préparation des trans, donc avant qu'elles arrivent début décembre. Et j'ai été un peu le témoin privilégié d'une soirée Rosebud en fait, qui était, je ne sais plus si c'était à l'Ubu ou dans le sous-sol du Théâtre National de Bretagne. Ça, j'en ai parlé avec des gens et nos souvenirs sont flous. La première représentation d'un jeune chanteur qui s'appelait Catherine. Et comme il jouait sur une espèce de timidité, le fait de ne rien vouloir faire comme les autres, il avait monté tout un système avec un vélo, des images, et le fait de pédaler, mettait des images. Les images étaient synchronisées avec son album, son premier album, donc Les Mariages Chinois. Donc c'était un peu la relecture des Mariages Chinois juste pour les trans. Et j'ai vu comment ils avaient préparé le truc, la chaîne qui cassait. Enfin, ils y avaient passé toute la nuit précédente. Jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si ça allait marcher. Et donc voilà, et le clou du spectacle, c'était à la fin. Philippe donc prenait une guitare et jouait, si mes souvenirs sont bons, Diary of a Lover de Johnny Saunders. Et voilà, ça a duré une petite demi-heure, je dirais même une vingtaine de minutes. Et j'avais vu tous les efforts qu'il avait fallu pour en arriver là. Donc c'était une petite performance, showcase, je sais pas. En tout cas, c'était open bar, sponsorisé par une marque d'anisée. Ce qui fait que nous étions jeunes et beaucoup de gens étaient venus en fait pour ça, pour la première rave et ce soir-là aussi le concert d'après qui était donc dans l'Omnisport et donc qui était une affiche de alt rock américain à peu près parfaite puisqu'il y avait Pavement, Sugar avec Bob Mould et Sonic Youth. Kiss me on, kiss me off my lips. Donc c'était Sonic Youth, c'était donc période Dirty, qui pour moi est une très bonne période de leur discographie. Et donc il y avait Pavement, qui était aussi le groupe dont on était tous fans. Et j'avais, je pense, une bonne dizaine d'amis qui sont venus de Paris ou de province transmusicale pour voir cette soirée. Donc il y avait un groupe qui s'appelait Cell, je crois que l'histoire a oublié, qui était signé sur Geffen, qui a commencé. Ensuite il y a eu Pavement. Alors Pavement à l'époque avait leur batteur fou qui s'appelait Gary Young, enfin soi-disant fou, mais il s'est avéré qu'il était réellement fou après. Et Gary Young, donc à chaque concert il faisait une sorte de performance et Ils avaient fait un concert à Londres et Gary Young s'était mis devant la salle avec un toaster et il faisait un toast pour chaque personne qui rentrait, ou presque. N'ayant probablement pas trouvé de toaster dans l'omnisport, là, il avait pris des cartons, des énormes cartons, qui désossaient comme ça. Et à chaque spectateur qui arrivait dans la salle, il donnait un bout de carton. Voilà. Donc, Gary Young de Pavement. Concert sublime, enfin... Je ne sais pas comment, par rapport à quelqu'un de nos jours qui verrait un groupe dont il est fan hardcore pour la première fois. Et c'était totalement exaltant. Voilà. Ensuite, il y a eu Sugar, le groupe de Bob Mould. Moi, j'étais très fan d'Oscar Doux. Donc, c'est la première fois que je voyais sur scène. Les effets conjugués des fréquences très très aigu de sa guitare, et le Sugar jouait un volume sonore très 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 fort. C'était presque aussi fort que My Bloody Valentine. Et je sais qu'à un moment je me suis assis et je crois que je me suis endormi dans la musique. Pas longtemps, mais voilà, c'était vraiment un volume sonore qui faisait voilà. Et puis après, ben, Sonic Youth, grand show à l'américaine, vraiment très bien, enfin une superbe soirée.
Et la rêve partie de 92, parce que ça aussi c'est rentré un petit peu dans la légende, la mythologie des trans.
Absolument. Alors il faudrait retrouver peut-être tous les noms à l'affiche. Il y avait Underground Resistance avec Mad Mike, il y avait 808 State. Alors c'était une grande première en fait, parce que moi je suis parti d'une génération qui aurait pu aller en rave, les raves mythiques de la région parisienne, Champigny, tout ça, enfin j'avais l'âge pour. Et je sais pas pourquoi on n'avait pas ce taquet là en fait. On devait être déjà des d'affreux conservateurs ou néo-réactionnaires, mais on était quand même très très excités. Donc cette rêve, je me souviens qu'on l'avait bien préparée. Je me souviens qu'il y avait des amis à nous qui s'étaient fait refiler des Doliprane 1000 en pensant que c'était de l'ecstasy, et qu'on avait, on s'était copieusement moqué d'eux. Après, a posteriori. Et puis alors c'était très bizarre parce que c'était présenté dans la salle Omnisport, qui est une salle comme une grande salle de rock, et comme les gens avaient pas il y avait des gens qui étaient là qui avaient déjà été dans des raves, il y avait beaucoup de gens qui étaient au premier rang en fait, qui regardaient ça comme un concert. C'était très incongru. Donc il y avait un moment où je me suis dit, mais c'est très bizarre parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser exactement. Puis à un moment, ben oui, c'est parti. Je me souviens que tout le monde était très curieux et qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça circulait beaucoup parce qu'il y avait une salle chill out, je crois, dans le bar de l'Omnisport au premier étage. Et en fait, on était très curieux. Non pas que nous ayons pris des stimulants, parce qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment ce que c'était, mais on s'est beaucoup promené en fait en dansant. Et pour voir les gens, pour voir ce qui se passait. C'était une soirée très très curieuse. Je me souviens avoir croisé Dominica et Françoise Breu, qui étaient là aussi, très très curieux, très enjoués. Et puis deux jeunes garçons qui n'étaient pas encore casqués à l'époque, donc Guyman et Thomas Bangalter, que j'ai un peu fréquenté à l'époque parce qu'ils cherchaient un guitariste pour leur groupe qui s'appelait Darlene. On est toujours resté en contact, on se voyait à des concerts. Moi, je jouais dans un groupe qui s'appelait Superdrug, ils étaient venus nous voir en répétition. Enfin, on n'était pas hyper potes, mais on se fréquentait un peu de loin. Et eux aussi étaient là, très curieux, mais je pense qu'ils devaient déjà avoir une meilleure connaissance de ce milieu musical que nous. Et nous, finalement, c'est aussi grâce à eux, quelques années après, qu'on s'est mis vraiment à s'intéresser à la house et à la techno, alors que j'ai des gens qui ont peut-être 2 ans de plus que moi et qui ont été dans ces raves et qui connaissent le truc depuis le début.
Il y a une autre année qui compte pas mal dans ton parcours personnel de festivalier, on va dire, c'est l'année 94. Je crois qu'il y avait là aussi une affiche assez délirante.
Alors il y avait une affiche. C'était une soirée salle de la cité où il y avait Sol Coughing, il y avait Wayne Kramer, il y avait Beck, et en tête d'affiche, il y avait Shellac. Donc quand même une affiche assez démentielle. Surtout que Sol Coughing, qui est un groupe qu'on a un petit peu oublié, venait de sortir il me semble, leur deuxième album, qui est super. Wayne Kramer, qui était sans foi ni loi, c'est-à-dire que le type faisait son comeback avec un album qui s'appelait The Hard Stuff à l'époque, qui était sorti sur Epitaph, et il voulait vraiment en découdre. C'était très 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 intense aussi. Beck est arrivé, on croyait voir le nouveau super-héros du rock américain, puis on a vu cette espèce de petit garçon tout con, pince sans rire ce qu'il faut, et faire un concert un peu, je m'en foutiste, mais tout à fait à l'image de ce qu'il est. Et puis, Shellac, le groupe de Steve Albini. Donc, je sais pas s'ils étaient en tête d'affiche, en fait, Shellac. Moi, j'étais hyper fan de Shellac. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert, je pense, Shellac ce jour-là, parce que l'album aussi venait juste de sortir. Et c'est, ça, c'est vraiment un truc des trans à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours le flair de trouver le groupe qui est déjà adulé par une poignée de gens un peu branché et qui va mettre la pâtée à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là.
Si les trans prennent encore de l'ampleur dans les années 2000, se déplacent, s'éloignent un peu du centre historique de Rennes pour investir les fameux hangars du parc des expositions, elles ne lâchent pas pour autant leur ambition du coup d'avance. C'est ce qui reste d'ailleurs le moteur essentiel d'attraction pour ceux qui, festivaliers ou professionnels, continuent religieusement leur migration bretonne chaque début de mois de décembre. Parmi eux, le journaliste Sofian Fanon, un ancien de Libération, cofondateur du site Les Jours. Je suis allé causer avec lui de quelques souvenirs marquants qu'il garde des éditions récentes.
C'est quoi ton meilleur souvenir des trans ?
Je me rappelle en 2011, de Colin Stetson, saxophoniste canadien. C'est exactement ça, c'est quel autre festival peut se dire « Je vais mettre un mec au saxophone tout seul à 23h30 et ça va être super ». Quel autre festival peut se dire ça, en fait? Aujourd'hui, Colin Stetson, on le voit, il s'est installé parce que c'est un mec très à part, il a fait plein de choses pour des films, il a joué avec plein de gens, etc. Donc, ok, il a réussi à briser un peu ce plafond de verre, mais vraiment, je l'ai rarement revu en solo, en fait, dans un festival Colin Stetson, en plus dans une salle comme ça. Moi, je me rappelle du concert de Colin Stetson, vraiment, je pense que c'est un truc qui m'a marqué, parce que on est arrivé dans le hall, donc c'est quand même dans un grand hall du parc exposition à côté de l'aéroport. Faut en vouloir pour que ça soit sexy, quand même, comme condition de concert. Et au début du concert, on devait être 200 à tout casser, dans un hall qui fait 3 500 personnes. Et encore 200, peut-être même moins. Et donc, les quelques personnes qu'il avait déjà repérées, parce qu'il avait déjà sorti son disque, il commence à jouer, et en fait, il joue une heure sans s'arrêter. C'était incroyable, comme d'habitude, avec ses pédales, le souffle complètement dingue, ça commence à prendre, ça monte, ça monte, ça monte. Et plus ça monte, plus les gens arrivent par les côtés. Donc il y a deux entrées dans la salle, plus les gens rentrent par les côtés. Et en fait, tous les gens qui rentrent, ils sortent pas. Et au bout de 35 minutes, je tourne la tête, parce que j'avais pas tourné la tête, j'étais resté scotché sur lui. Et il y avait 3000 personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce concert, qui était complètement dingue, qui était quand même un concert d'un mec tout seul au saxophone à 23h30. Et ça, c'est la grande qualité des transmusical, c'est pas un scoop, je suis vraiment pas le seul à dire, bien entendu, c'est d'arriver à mettre un public extrêmement divers dans un état d'esprit de... c'est même pas de la découverte, c'est de recevoir la musique, tout simplement.
Dans la légende des transmusicales, il y a ce côté, le festival où sont passés les groupes avant qu'ils deviennent énormes. Parce que tout le monde en ressort souvent la fameuse anecdote de Nirvana qui joue quelques semaines presque avant que Nevermind explose partout. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Est-ce que toi, tu as souvenir d'avoir vu, mais même peut-être sans que ce soit marquant particulièrement, mais d'avoir vu des groupes qui après sont devenus énormes sur la scène des transmusicales?
Moi, j'ai souvenir de la première année où j'y suis allé, donc en 2007 pour Libération. Le Métronomie. Ça m'avait pas tellement plu. Je me rappelle les avoir vus, c'était l'époque où ils étaient quatre et où ils avaient encore ces lumières rondes sur le corps. Là, c'était ça leur argument scénique, parce que Metronomy n'a pas beaucoup d'arguments scéniques, donc il fallait qu'ils trouvent des artifices comme ça. Et moi, ce qu'ils faisaient à l'époque, je trouvais ça un peu niais, ça m'a jamais passionné. Très honnêtement, c'était bien, et je me rappelle de la sortie du concert, on discutait, parce que le groupe commençait un peu à bruisser parmi les journalistes musique, etc., etc. On savait qu'ils allaient décoller, et vraiment, leur concert a confirmé ça, et ça les a emmenés un peu sur d'autres tournées, d'autres choses, donc pour eux, c'était pas du tout une impasse. Mais pour moi, c'était bon, Metronomy, ok, c'est ça, et ça me passionne pas, j'ai rien contre eux, mais ça me passionne pas. Et du coup, après, quand ils sont devenus énormes, j'étais un peu, je suis passé un peu à côté gentiment et tout, jusqu'à The English Riviera, que j'ai écouté très professionnellement, et où je me suis rendu compte que le groupe avait complètement pivoté sur lui-même, était complètement parti vers autre chose, que la proposition était musicalement très différente, et moi ça me plaisait plus, je trouvais ça plus stimulant. Donc c'est, il y a comme ça des groupes où, en regardant la liste des groupes qui ont joué, on se dit, ah mais ouais, ils ont joué cette année-là, aucun souvenir.
Tu y retournes cette année ?
J'y retourne cette année, bien sûr, ouais.
Et est-ce que tu as déjà repéré les groupes que tu as envie de voir ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui te font envie dans la prog ? Tu dis ça, je vais aller le voir.
Alors non, j'ai pas encore commencé à bosser. J'aime bien bosser dans le train, en y allant. J'aime bien aussi me laisser surprendre et me laisser un peu divaguer dans le festival et presque sans forcément fouiller en amont sur des groupes. Je vais faire un petit tri parce que sinon on s'en sort pas. Mais c'est agréable aussi d'aller dans un festival en festivalier des transmusicales, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein de festivaliers des transmusicales qui regardent pas le programme, qui vont aux trans, et en fait ils regardent pas le programme et ils se laissent porter de salle en salle, parce que c'est comme ça que ce festival s'écoute le mieux, parce que quand on regarde la programmation, même moi qui passe mes journées à écouter de la musique, il y a plein de groupes que je connais pas du tout et que je connaîtrai après avoir fait les trans.
Bon, vous m'excuserez de ne pas vous lister l'intégralité de la programmation de l'année, que vous retrouvez d'ailleurs sur le site des Trans. J'ai un peu flanché face à la liste, qui est aussi longue qu'alléchante à peu près. Vous piocherez donc vous-même, je me contenterai de pointer vers ce qu'on entend là tout de suite derrière moi, les Américains de Bodega, fiers représentants de l'increvable scène post-punk. Ils joueront le 8 décembre au Parc Expo vers 23h, ça risque d'être assez bouillant. Tant que je vous tiens, sachez que Binge Audio sera présent en force pour ses trans musicales, puisque les camarades de No Fun vont y enregistrer 3 émissions spéciales, jeudi, vendredi et samedi à 17h à l'Espace Liberté. Je vous invite d'ores et déjà à guetter tout ça, elles seront, ces émissions, n'en doutons pas, tout à fait formidables. Merci à Doudou, Étienne Greib et Sofian Fanen pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.